Bonjour et bienvenue en 2030 glorieuse. Je m'appelle Julien Vidal, je suis le fondateur du mouvement Ça commence par moi. À travers ce podcast, je pars à la rencontre des acteurs du monde de demain. Ils incarnent les utopies réalistes dont nous avons tant besoin. Ce sont des bâtisseurs, des idéalistes, des empêcheurs de tourner en rond, des personnes à l'écoute du vivant et d'eux-mêmes qui ont décidé de se mettre au service d'une cause qui les dépasse, celle de la création d'une société plus égalitaire, plus durable et plus heureuse. Ils sont des milliers en France à agir concrètement pour montrer que l'action est le meilleur remède contre le fatalisme et que, si nous agissons avec ambition et amour, la décennie des 2030 glorieuses est à portée de main. Bonne écoute.
Bonjour Arnaud Créteau.
Bonjour.
Bienvenue dans le podcast 2030 Glorieuse, dans lequel je rencontre celles et ceux qui sont les signaux faibles des mondes de demain. Pour cette quatrième saison, le podcast 2030 Glorieuse, il est à nouveau soutenu par la NEF. C'est une chance immense pour moi, à la fois sur la forme et sur le fond, car ce partenariat, il me permet de pouvoir faire mon travail dans les meilleures conditions, mais aussi car la NEF, elle est alignée avec mes visions des 2030 Glorieuses, puisqu'à travers ses activités, cette coopérative bancaire citoyenne participe à développer des projets socio-écologiques et culturels qui font dès aujourd'hui le monde de demain. Aujourd'hui, moi, je suis heureux de te parler, Arnaud. Tu es le fondateur de Neolocos, c'est une entreprise pionnière dans l'artisanat solaire qui a pour objectif de rendre l'alternative locale plus désirable que les produits standardisés issus de la mondialisation. Je commence, Arnaud, à te poser la question que je pose à tous mes invités en te proposant voilà, ce petit jeu de l'imaginaire. Et tu te retrouves à une soirée où tu es entouré de plein de personnes que tu ne connais pas et arrive fatalement ce moment où tu engages la conversation avec un ou une inconnue et tombe cette question qu'on en vient presque tous et toutes à redouter. Et toi, tu fais quoi dans la vie? Qu'est-ce que tu réponds?
Alors, si j'ai pas envie de parler de trop, je dis que je fais du pain. Et puis, si les personnes commencent à questionner un peu plus, là, je commence à expliquer que, en fait, je suis ingénieur et boulanger, que moi, je suis spécialisé dans le dans l'énergie solaire. Et que je cuis du pain dans un four solaire. Je fais aussi de la torréfaction solaire. Et voilà. Et après, s'ils veulent en savoir encore un peu plus, après on rentre dans une très longue histoire. Parce que ça commence il y a plus de 10 ans.
Et ben justement, nous, on va y rentrer dans cette longue histoire qui a commencé il y a plus de 10 ans parce que moi, tu vois, à l'initiative de ce podcast 2030 Glorieuse, il y avait la volonté de reposer la question du métier dans nos vies, dans nos sociétés, comme moteur des 2030 Glorieuses et d'essayer de sortir un peu voilà, de toutes les limites actuelles avec la présentation comme on la retrouve, et je te jette pas la pierre, sur tous nos profils LinkedIn, d'être fondateur, directeur, créateur, entrepreneur, innovateur, bref. Un peu ce langage à la Startup Nation qui me semble être complètement vidé de sens. Pourtant, toi, tu en as du sens. Et du coup, là où tu te décris, il me semble de mémoire comme directeur de Neolocos, moi, je te verrais plutôt comme soit inventeur de produits torréfiés solaires, soit comme boulanger solaire. Enfin, je sais pas, tu vois comment le dire, mais si jamais, du coup, fort de tout ce que je viens de te dire là, tu devais te représenter à nouveau, tu dirais quoi?
Oui, alors en fait sur le LinkedIn, ça doit être écrit directeur technique de Solarfire Concentration, parce que c'est l'entreprise avec laquelle on conçoit les fours solaires. Ouais. Tu vois, donc c'est un peu voilà. Mais bon, en fait maintenant, je passe l'essentiel de mon temps sur Neolocos. Et tu vois, bah c'est plein de métiers à la fois, et puis c'est pas que c'est aussi une fibre, c'est plus qu'un métier. Donc du coup voilà, Neolocos, ça peut être vu de deux manières. C'est soit une activité artisanale qui fait de la recherche, tu vois, et parce qu'on s'inspire d'anciens savoir-faire qu'on mélange avec des nouvelles, mais on teste énormément de choses. Donc ça peut être vu soit de vraiment un laboratoire de recherche qui travaille en milieu réel. Tu vois, c'est-à-dire que conçoit des formes d'organisation pour cuire du pain avec des énergies intermittentes ou torréfier avec des énergies intermittentes. Mais on ne fait pas ça dans un laboratoire. On vend réellement le pain, on vend réellement les graines. Et du coup, ça change vraiment toute l'approche.
Ouais, on va parler de ces trois axes hein, que tu viens de détailler, du côté recherche, du côté produit et du côté aussi innovation et en ce moment en particulier dans le contexte dans lequel on est, du lien à l'énergie et de ce que ça peut nous permettre de vivre ou pas, voilà, ce lien plus profond à l'énergie intermittente. Avant tout ça, moi, avant que tu me racontes exactement tes activités, j'aimerais que tu me dises un peu là comment on se retrouve à être justement pionnier dans cette aventure des fours solaires. Est-ce que tu peux me raconter un peu là les quelques étapes importantes qui ont fait que tu fais ce que tu fais aujourd'hui?
Oui, voilà. Alors, par exemple, c'est pareil que quand tu dis pionnier. Bon, ce n'était pas l'objectif. Tu vois, c'est encore un terme qu'on pourrait mettre comme ça. Mais en fait, tout démarre. Moi, j'ai choisi de faire des études d'ingénieur parce que j'avais la vision de l'ingénieur qui, si tu veux, peut détecter des problèmes, tu vois, dans la société, des choses qui fonctionnent très bien, et puis être capable de d'élaborer des solutions, quoi. Et en fait, donc, j'ai choisi d'être ingénieur pour ça. Et quand je suis arrivé à l'école d'ingénieur, j'ai rapidement compris qu'en fait, c'était pas à ça qu'on nous préparait, quoi. Et c'est pas mon école, c'est toutes les écoles. C'est-à-dire que l'ingénieur d'aujourd'hui, on lui apprend à utiliser des outils d'ingénieur, mais on le prépare à être embauché, quoi, par des grandes entreprises pour la plupart et qui pour la plupart contribuent au problème plus que à trouver des solutions, quoi. Mmh. Et donc moi, c'était complètement à l'opposé de mon approche en voulant devenir ingénieur. C'est-à-dire que c'était clair il y a 15 ans que l'enjeu, ça allait être autour de l'énergie. C'est pour ça que j'ai fait ingénieur dans l'énergie. Mais en fait, on nous proposait d'aller contribuer au problème plus qu'à trouver des solutions. Donc en fait, donc moi, on a créé une asso qui s'appelle les Vagabonds d'énergie pendant qu'on était étudiant ingénieur avec un ami. Et on est parti, avant de finir les études, hein, on est parti un an faire une étude sur l'énergie pendant un an dans une vingtaine de pays. On a visité une soixantaine de projets énergétiques. Et en fait, pendant ce voyage, il y a eu deux apprentissages très importants. Tu vois, et là, le projet Néoloco aujourd'hui vient de tout ça, quoi. Le premier apprentissage, c'est que on s'est rendu compte que l'énergie, c'était moins un enjeu technique qu'un enjeu social. Parce que, tu vois, si nous, on est allé voir toutes les sources d'énergie, tu vois, on s'est pas posé de questions. Autant je suis allé dans des mines de charbon en Ukraine, tu vois, d'ailleurs, dans le Donbass. On est allé dans le Nord Stream en construction. Donc moi, tu vois, j'ai des photos de nous dans le tube, quoi. Non, c'est parce que, tu vois, à l'époque, déjà, on savait que ces endroits-là, c'était des points chauds énergétiques. Il n'y avait pas de surprise, en fait. Et voilà, on est allé dans les champs gaziers en mer du Nord, et puis on est allé aussi dans les éco-villages en Allemagne, dans les centrales micro-hydrauliques dans l'Himalaya, et dans des laboratoires, tu vois, à tous les stades de développement. Donc on s'est vraiment pas mis de barrière. Et tu vois, mais la question était, comment sont faits les choix énergétiques à l'échelle des pays? Tu vois, parce que si l'énergie est un enjeu technique, c'est-à-dire qu'il repose sur la science étant la même partout sur Terre, tous les pays devraient faire les mêmes choix énergétiques, tu vois. Il n'y a pas de sens qu'un pays choisisse des solutions moins performantes que, tu vois, juste par envie ou... Bon, ben, clairement, c'est pas ce qui se passe. Tous les pays font des choix énergétiques différents, des stratégies différentes, parce que, en fait, les choix énergétiques, ça vient beaucoup de représentations sociales, d'habitudes de vie, d'infrastructures existantes, de l'économie aussi, etc. Donc, en fait, très peu d'enjeux techniques. Voilà. Et puis, on a eu des expériences sur des projets qu'on a visités, où il apparaissait clairement que les choix avaient été faits tout simplement par habitude culturelle, etc., et pas par recherche de performance, quoi. Et donc, une organisation sociale peut être performante énergétiquement, plus qu'une autre. Tu vois, par exemple, bon, je te prends l'exemple là du café de local qu'on fait avec des pois chiches et des lentilles de Normandie. Tu vois, qui est pas du tout un produit farfelu parce que c'est ce qu'on faisait avant le café, etc. Donc, et il y a encore plein de pays qui font des cafés, enfin, des boissons torréfiées, du coup, qui voilà. Bah voilà, si tu as une habitude culinaire basée sur ce type de boisson torréfiée, ta culture culinaire est plus performante énergétiquement que celle qui domine en France, par exemple, où tout le café est importé du bout du monde avec de la déforestation, etc., etc., etc. Donc, tu vois, ça, tu peux le démultiplier dans plein de domaines. Tu vois, on pourrait faire tout le podcast là-dessus. Clairement, les enjeux énergétiques, c'est plus des enjeux sociaux que techniques. Et ça, c'est vraiment primordial, tu vois, quand on est ingénieur et qu'on se rend compte de ça. Parce que là, tu te rends compte que ça va servir à rien de t'enfermer dans un laboratoire pour améliorer quelques pourcentages d'un système technique. Une chaudière, par exemple, quand tu te rends compte que quand tu prends deux maisons identiques et tu mets dedans deux familles différentes, tu vas avoir des économies de consommation, des écarts de consommation énergétique de 30%, tu vois. Donc, ton 1% de chaudière, si tu veux, c'est hors sujet. Donc, en fait, il faut travailler sur le tissu social et c'est vraiment là le cœur du sujet. Et je pense que c'est pour ça qu'on n'avance à rien depuis des décennies. C'est parce que on veut une réponse technique qui permettrait, et ça, c'est un peu une fable, de surtout ne rien changer à l'organisation sociale. Tu vois, on monte en complexité technique pour surtout espérer ne rien changer.
Ouais, c'est fou, hein. Ce que tu dis là, ça montre même que, en fait, là, tu éclaires en creux les manquements, même des ingénieurs qui, eux, se disent conscients de la crise écologique, climatique, etc., etc., et qui prennent souvent la parole. Je pense notamment à Jean-Marc Jancovici, qui, lui, a des angles morts au niveau sociaux, sociétaux, qui sont fous. Et on entend assez peu, en fait, à quel point la complexité sociale, économique, elle est aussi très importante si on veut vraiment prendre en compte les enjeux écologiques auxquels on est confronté.
Ouais, et puis en plus, ça n'a aucun sens d'un point de vue humaniste. Tu vois, si l'enjeu, c'est d'être des humains émancipés, etc., et puis qu'on soit heureux en tant qu'humain, si tu veux, il suffit de voyager pour se rendre compte qu'il y a plein de manières de vivre. Tu vois que, du coup, de vouloir ne surtout rien changer à notre manière de vivre ici, pourquoi, tu vois. Et donc, il y a plein de manières de vivre, et en plus, il y a des gens heureux partout. Tu vois. Donc c'est pas parce qu'on aurait atteint ici un mode de vie ultime qu'on serait en train de vouloir pas le changer. Non, on veut pas le changer, surtout par flemme, tu vois.
Par habitude, par
peur. Ouais, du par habitude, aussi, c'est ça, sûr. Par habitude, parce que c'est très consommateur des forces de changer ses habitudes. Donc c'est ça le. Mais par habitude. Mais en fait, voilà, mais après. Après, ça peut être très jouissif, tu vois, de changer ces habitudes-là, parce que c'est juste que, voilà, ça fait peur de changer ses habitudes, mais c'est pas non plus si affreux que ça.
Non, mais c'est sûr. Et même que, en général, les personnes auxquelles je donne la parole en 2030 glorieuse montrent à quel point le changement de nos habitudes est même libérateur. Laisse-moi revenir quand même un peu, Arnaud, sur nos sujets, sur ce que tu nous présentais de ton activité au tout début, parce que j'ai l'impression que toi, en tant qu'ingénieur, justement, tu disais humaniste, tu as décidé de mettre, du coup, cette énergie, tes talents, ta formation au service d'un métier qui est peut-être l'un des métiers les plus vecteurs de lien, en fait, celui de boulanger qui est au cœur de la journée de chacun et de chacune.
Voilà. Et donc, oui, donc c'est ça. Donc, et tu vois, ça vient du fait, bah, je te disais, ça, c'était le premier apprentissage qu'on a parlé. Le deuxième, c'était la découverte de Solarfire en Inde, tu vois. Et donc là, j'ai découvert les concentrateurs solaires et la potentialité, tu vois, que ça avait.
Concentrateur solaire, on voit bien hein, les images maintenant, on les voit de plus en plus, de tous ces miroirs qui sont orientés hein, pour en fait diriger la chaleur sur un seul point.
Voilà, c'est ça. Et donc là, tu as vraiment les deux gros avantages qui amènent, tu vois, 10 ans plus tard à réussir à créer tu vois, une activité de boulangerie solaire, de réfraction solaire en Normandie. Et comme tu dis, tu vois, aujourd'hui, je me sens beaucoup plus ingénieur en tant que boulanger, tu vois, qu'en tant qu'ingénieur qui, tu vois, j'aurais travaillé pour, je vais pas citer de nom, tu vois, mais je sais quelle entreprise à laquelle je pense. et parce que voilà, parce qu'en fait, on y est là. Tu vois, on constate qu'il y a un problème énergétique, tu vois, qui est très grave parce qu'on risque de pas réussir à répondre à nos besoins de base, tu vois, à court ou moyen terme. Et ben, en développant des activités de boulangerie ou de torréfaction, tu vois, qui sont capables de fonctionner sur des énergies intermittentes, totalement déconnectées, tu vois, des réseaux énergétiques, de la géopolitique, etc., etc., on crée une forte résilience. Et là, on est beaucoup plus ingénieur parce qu'on répond aux problèmes.
Et c'est fou à quel point ça, là, ça parle particulièrement à notre époque, puisque si là, il y a eu voilà, toutes les grandes industries qui ont besoin de fours immenses, et on pense aussi aux entreprises qui font, bah, je pense notamment aux entreprises Duralex qui font les Tupperware, les verres, tout ça. Et on sait que là, de plus en plus, ce sont les boulangers, les pizzaïolos qui ont du mal à boucler les fins de mois parce que les factures, elles grimpent de manière complètement incontrôlée, incontrôlable.
Ouais, ouais. Ben oui, ben ça, c'est vraiment le... Voilà, ce qui est étonnant en ce moment, c'est que mais, bon, ben, le projet Néoloco, tu vois... Évidemment, il y avait des considérations environnementales, etc., etc. Mais à la base, il y avait aussi l'idée tu vois, d'être viable économiquement aujourd'hui et d'être viable dans le monde de demain. Tu vois. Et là, ce qui se passe ces derniers mois, c'est vraiment ben voilà, le côté économique prend toute son ampleur et tu te rends compte que ben oui, c'était pas juste un projet tu vois, pour économiser moins d'énergie, etc., etc., mais qu'en fait, l'idée, c'est qu'on ait des boulangeries, quoi. Qu'on fait du pain et que le système dominant actuellement, et ben, peut-être qu'à un moment donné, il sera plus capable de fournir du pain. Voilà, donc c'est pas, on n'est pas en train de parler de quelque chose qui est juste une alternative joyeuse, etc. Enfin, plus joyeuse, plus souhaitable, etc. En fait, c'est peut-être juste hyper nécessaire.
Oui, c'est vrai que souvent on affiche la sobriété comme quelque chose de joyeux et c'est un mode de vie frugal et libérateur. Là, en l'occurrence, c'est aussi très très concret et très pragmatique. C'est ce que tu dis.
Mais oui, il faut que ce soit joyeux et que ça donne envie. Je pense quoi, parce que personne n'a envie de se projeter dans un futur triste. Donc c'est joyeux, c'est super agréable. Ça allège énormément de choses, ça apaise, etc. Et en plus, c'est super important parce qu'on a besoin de pain, on a besoin de... Donc voilà, tu vois, nous, les produits, le pain et les produits torréfiés, on a fait une petite augmentation sur le pain en fin d'année, mais c'est surtout lié au fait que c'est vrai que la farine a augmenté un petit peu, etc. Mais, et puis tu vois, le SMIC augmente, etc. Donc forcément, il y a des petites charges qui augmentent. Mais on n'avait pas augmenté le prix avant, tu vois, parce que une partie des pains sont cuits au solaire, que tous les pains étaient livrés à vélo.
Vous n'étiez pas tributaire de la réalité politique, géopolitique, économique.
Voilà, donc en fait nous, les augmentations du prix de l'énergie, on ne les subit pas. Et en plus, on se fournit que en farine bio locale. Et en fait, le moulin avec lequel on travaille, c'est un moulin bio local, du coup, qui a des agriculteurs locaux et des débouchés locaux. Donc, il n'est pas sur les marchés mondiaux de l'énergie. Donc, en fait, moi, en 2022, j'ai eu, jusqu'à la récolte de septembre, là, il y a eu zéro augmentation. Les grains étaient dans des silos. Les grains étaient dans les silos. Il n'y a pas de raison de... Le silo n'est pas devenu beaucoup plus cher parce qu'il y a eu la guerre en Ukraine, quoi. Et donc là, il y a une petite augmentation des farines depuis la nouvelle récolte, mais c'est juste le moulin qui répercute sur l'augmentation du prix des sacs en papier, l'augmentation de l'électricité pour faire tourner le moulin. Voilà, mais c'est très peu par rapport à l'augmentation qu'il y a eu sur les marchés de la farine, etc. Et donc c'est pour ça qu'il faut que les besoins de base, on puisse les assurer au maximum localement, quoi. Et que les transports internationaux, etc., il faudrait voir ça comme une assurance, quoi. Quand il y a une mauvaise récolte quelque part, etc., on peut s'échanger des surplus.
Oui, d'autant que toi, tu dis en fait qu'on n'a rien à perdre parce que tous ces petits plaisirs hein, qu'on vante comme les péchés mignons de notre modernité, le chocolat, le café, les épices, les cacahuètes, tous ces trucs un peu addictifs, en fait, tu montres aussi qu'on peut y répondre localement et c'est ce que vous faites avec une partie de vos produits en fait.
Oui, c'est ça. Donc sur la torréfaction, c'est vraiment une activité qui est hyper intéressante. Et là, c'est un univers qui s'ouvre. Parce que tu vois, les produits torréfiés, on en consomme tous les jours, mais on le sait même plus. Tu vois, les cacahuètes, c'est torréfié, le chocolat, c'est torréfié, le café, c'est torréfié, les épices, souvent, c'est torréfié, c'est des graines torréfiées réduites en poudre. Sans torréfaction, il y aurait que de la bière blanche ou de la bière blonde. Une partie des huiles, il y a de la torréfaction. Dans l'alimentation animale, tu vois, le soja, c'est torréfié. Sinon, les animaux ne digèrent pas bien. Donc, en fait, c'est partout. C'est que des produits qu'on a abandonnés, tu vois, à l'industrie et donc que des produits standardisés, mondialisés. Alors que on a localement des graines partout, tu vois, qui peuvent faire des super graines apéro, qui peuvent développer des saveurs pour faire des épices, etc., etc. Et tu vois, et tout ce qui est torréfié, il y a deux avantages de la torréfaction, c'est d'une la conservation. Donc tout ce que tu torréfies se conserve plus longtemps. C'est un procédé de conservation. Et c'est un exhausteur de goût. Donc tout ce que tu torréfies donne du goût. C'est pour ça que le chocolat s'est torréfié, le café, etc., les épices. C'est parce que ça sert d'exhausteur de goût. Et donc ça, il y a vraiment quelque chose à se réapproprier. Tu vois, je pense qu'il devrait y avoir des torréfacteurs dans tous les cantons au moins. Parce que c'est des produits qu'on consomme tous les jours.
Mais ça, on en reparlera, Arnaud. Ouais, on en reparlera parce que en 2030 Glorieuse, j'ai plein de choses à dire par rapport à ça. Mais moi, je voulais que tu me racontes un peu parce que là, tu parles du mérite de la torréfaction. Raconte-nous là rapidement un peu du coup, toi, à quoi tu joues avec ton four en fait. C'est ça aussi qui m'intéresse, que les personnes qui nous écoutent, elles se rendent compte de la puissance à la fois effectivement énergétique, on l'a compris, mais presque romantique ou en tout cas gustative, même si pour nous en France les deux sont liés, du four solaire.
Bah, déjà la cuisson au four solaire, c'est, tu vois, le four solaire, comme tu disais tout à l'heure, tu vois, c'est des miroirs qui concentrent les rayons du soleil dans le four, donc il n'y a pas de combustion, c'est de la chaleur pure. Bah donc déjà, ça veut dire que tu cuis des aliments sans fumée de combustion, sans avoir à gérer une logistique de bois ou je sais pas quoi, et sans payer de factures ou etc. Après, tu as le côté intermittent, tu vois, de la ressource. Donc c'est-à-dire que tu t'organises forcément en fonction du jour où il fait beau, etc. Et ça, je pense que si on peut en reparler, c'est bien parce qu'il y a beaucoup de choses à dire.
Ouais, on en reparlera, t'inquiète. Ouais.
Et voilà, donc nous, là, moi, j'ai développé une activité de boulangerie et de torréfaction. C'est lié à cette recherche sur les formes d'organisation, parce que la boulangerie, c'est un produit périssable, la torréfaction, c'est un produit de conservation. Donc c'est deux modèles, si tu veux, différents. Et donc moi, dans la recherche, tu vois, des possibles sur l'artisanat solaire, c'était intéressant. Mais bah, tu vois, sur la boulangerie, quand il part plein soleil, on fait des fournées de 38 kilos de pain à la fois. Et c'est une fournée par heure, quoi. Donc en fait, en hiver, au fond de l'hiver, au mois de décembre, une journée de soleil, tu fais 110 kilos de pain. Et au mois de juin, on peut cuire 250 kilos de pain. Parce que les journées sont beaucoup plus longues. Au mois de juin, on est en Normandie. Donc tu en as encore un plus grand écart que si on était dans le sud. Et d'ailleurs, je profite, tu vois, de dire qu'on est en Normandie pour dire qu'on a complètement des... Tu vois, quand je disais tout à l'heure que l'énergie, c'est un problème social plus que technique, ça se manifeste aussi au niveau des croyances. Tu vois, on peut pas parler de tout, mais vraiment tout, tu vois, la boulangerie, etc., il y a vraiment des croyances partout. Et sur le solaire, par exemple, aussi. Tu vois, si tu voulais créer un restaurant solaire pour la saison estivale, tu serais mieux en Normandie ou même à Brest.
Bien sûr.
Enfin, quoi, que dans le sud, parce que dans le sud, tu pourrais faire que le service du midi. Alors que en Normandie, ou à Brest encore plus,
tu vois,
ton soleil, il va se coucher à 21h, 21h30. Et donc, tu peux faire le service du soir aussi. Ouais, ça, c'est juste la petite aparté pour dire que plus t'es au nord, t'as des journées longues l'été. Ouais, ça peut avoir des avantages aussi.
Et tu veux pas nous dire ce que tu torréfies, hein? Moi, je te cuisine depuis tout à l'heure parce que j'ai faim en plus et j'ai envie que tu me fasses baver un peu de tous les produits originaux que vous faites, mais tu veux pas me raconter?
Non, ben on torréfie. Tu vois, je fais des graines apéro, donc on torréfie du tournesol, de la courge, des noisettes pour faire les graines apéro. Donc on fait une alternative au café à base de lentilles et d'orge. Et une autre recette à base de pois chiches et manches. Donc c'est inspiré de ce qui se faisait pendant la guerre, en fait, quand le café, quand les routes commerciales étaient coupées, le café n'arrivait plus. Tu vois, des graines au miel, c'est des graines torréfiées dans du miel. Tu vois, on moule ça dans des cadres en mètres, donc ça à la taille d'une plaque de chocolat. Sauf qu'il n'y a pas de sucre raffiné, pas d'huile dedans. Des épices de lin. Donc c'est pareil, il y a du lin doré, torréfié, réduit en poudre avec un peu de sel pour aromatiser les plats, quoi. Du petit-déj, sans sucre raffiné, sans huile. Enfin voilà, moi j'aime explorer, tu vois, les possibles. Donc j'ai testé un peu de la torréfaction sur chaque type de produit qu'on pouvait faire. Et j'ai pas encore tout fait. Mais bon, on pourrait imaginer créer une activité spécifique sur la torréfaction de boissons torréfiées locales, tu vois, parce que j'ai déjà essayé la châtaigne torréfiée, c'est génial. Torréfier le petit épaule, les glands de chêne, enfin, tu vois, il y a vraiment tout un tas de saveurs à développer. On pourrait faire une activité que sur les graines apéro ou que sur les épices, etc. Donc, tu vois, on est vraiment en train de juste défricher le truc.
Ouais, on a bien compris le caractère expérimental de Néoloco. Et d'ailleurs, tu dis que tu aimes bien défricher des nouveaux possibles. On a plein de choses. Il y a plein de questions que je voulais te poser. Je vais te les poser, mais différemment, puisqu'on va pas tarder à aller voyager en 2030 glorieuse. Moi, j'ai envie d'être dans cette société où on a tous un artisan solaire à côté de chez nous et qui explore justement à la fois les richesses des savoir-faire du terroir et qui nous donne encore plus le caractère un peu sacré de ces productions-là auxquelles on s'est malheureusement trop habitué en 2023. Avant ça, Arnaud, on coupe toujours l'interview en deux grâce à une petite parenthèse qui nous est offerte par la personne à laquelle je donne la parole. Toi, en plus, en ce moment, tu es plein dans l'écriture d'un bouquin, si je ne m'abuse, qui devrait sortir en mars aux éditions Terre Vivante, où tu racontes justement ton expérience de boulangerie solaire. Le titre du livre, alors je ne sais pas s'il est définitif, mais ça s'appelle La boulangerie solaire, un exemple pour un avenir radieux. Et donc, du coup, tu viens avec un petit extrait. Lequel est-ce ?
Alors, j'ai pris un livre d'Albert Jacquard qui s'appelle L'éloge de la différence. Milliards de fois, notre Terre a fait le tour du Soleil. Mais à chaque tour, des événements nouveaux se sont produits. Autour de cet infime agglomérat de matière, des gaz projetés par les éruptions volcaniques ont peu à peu formé une atmosphère. La vapeur d'eau s'est condensée et a créé les océans. Grâce à l'énergie fournie par les rayons ultraviolets de la lumière solaire, des molécules simples se sont associées pour créer des molécules de plus en plus complexes, douées de possibilités de plus en plus larges. Jusqu'à l'apparition, il y a quelques 3,5 milliards d'années, de molécules possédant l'étrange et fabuleux pouvoir de fabriquer d'autres molécules et de se reproduire elles-mêmes. La vie commençait.
Thank you. c'est le lancement parfait dont on avait besoin pour aller en 2030 glorieuse. La vie commençait. Et je crois qu'on l'avait un peu oublié à quel point, justement, la vie était une célébration. On y est, ça y est, en 2030 glorieuse, Arnaud. C'est un jeu de l'esprit, tu vas voir. C'est pas tout le temps évident parce que on doit arrêter d'être français un petit peu, si je veux le dire comme ça. On va imaginer à quoi ressemblerait notre société dans 10 ans si on avait fait les bons choix et qu'on avait décidé de se mettre vraiment à la hauteur des enjeux. Je te dis pas qu'en 2030 glorieuse, tout est facile, résolu, qu'on n'a plus de problèmes. On est forcément confronté à tout un tas d'enjeux, à tout un tas d'externalités positives, j'espère, mais aussi négatives. Non, moi, ce que j'ai envie de te dire, c'est que collectivement, on a réussi à comprendre l'ampleur du problème et à comprendre du coup l'ampleur des changements à mener pour en fait oser se regarder dans la glace et en plus le vivre plus sereinement, plus solidairement, etc., etc., d'accord ? Et donc, on est en 2030 glorieuse, ça y est, et on va aider les personnes qui nous écoutent à aller voir ces 2030 glorieuses, puisque celles qu'on va construire grâce à cet échange à venir, il faut les rendre les plus palpables, les plus réalistes possibles pour les personnes qui nous écoutent, parce qu'elles, elles sont restées en 2023, dans un monde englué dans les crises, où justement, on nous parle souvent de sobriété comme une fin, alors qu'au contraire, c'était qu'un moyen de retrouver cette place parmi le vivant qu'on avait un peu délaissé. Moi, ma première question pour toi, Arnaud, c'est que justement, en 2023, on était les deux pieds dans cette tempête énergétique. En 2030, c'est loin tout ça. Est-ce que tu peux nous raconter à quel point c'est loin et à quel point les 2030 glorieuses, on a repris un peu le contrôle de l'énergie avec tout ce que ça veut dire ?
En fait, il y a encore des... En 2030, il y a encore des... Il y a encore des gros enjeux énergétiques. Parce que toutes les transformations sont pas finies. Tu vois, mais si c'est glorieux, c'est que c'est assez chouette de participer à ces transformations. Parce qu'on s'est rendu compte dans les années 2023 qu'en fait, il aurait fallu commencer par ce qu'il y avait de plus long à faire. Tu vois, et que le plus urgent, c'est de faire ce qu'il y a de plus long. Parce que quand tu dois aboutir à un objectif, ça ne sert à rien de commencer par ce qui est rapide de faire. Tu vois, les solutions de court terme, etc. etc. S'il y a ne serait-ce qu'une seule tâche qui est longue à faire pour que l'objectif puisse être atteint, il faut commencer par celle-là. Puisque à chaque fois que tu retardes de commencer cette tâche, tu retardes l'arrivée, l'aboutissement de l'objectif. Et ce qu'il y a de plus long à faire, de transformer la culture. Tu vas travailler sur la culture, les habitudes, les représentations sociales, les croyances, etc. Ça, c'est ce qu'il y a de plus long. Construire une centrale, changer un mode de transport, etc. Ça, c'est relativement rapide par rapport à modifier la culture. Mais puisqu'en 2023, on a réussi à prendre conscience de ça, on a commencé à travailler sur ces aspects culturels. Et donc, on a commencé à débloquer tous les verrous. Et on s'est rendu compte qu'au fur et à mesure qu'on transformait la culture, toutes les solutions de court terme techniques allaient de soi et ne rencontraient plus aucune résistance à leur mise en œuvre, en fait. Parce que sinon, la culture vient toujours contredire les solutions rationnelles, etc., etc. Et donc en 2023, on a commencé à modifier nos. En 2030, là, en ce moment, on observe de plus en plus d'entreprises qui ont réussi à se réorganiser, à changer leur forme d'organisation pour devenir compatible avec des énergies intermittentes, par exemple. Tu vois, elles priorisent les tâches énergivores, par exemple les cuissons dans l'alimentaire, le chauffage des pigments dans le textile, les traitements vapeur dans le bois, etc. Elle priorise ces tâches-là les jours où l'énergie est facilement disponible. Donc, tu vois, soit les jours de soleil, les jours de vent, ou bien simplement les jours où, sur le réseau énergétique, l'énergie est disponible parce qu'elle n'est pas chère ou parce qu'il y a moins de demandes ailleurs. Et en fait, le fait d'avoir réussi à réorganiser les tâches énergétiques ces jours-là, ça a modifié l'organisation du travail. Tu vois, les gens, on a revalorisé les savoir-faire parce que les gens qui font les tâches énergivores ou l'énergie, quand l'énergie est disponible, ils font d'autres tâches quand l'énergie n'est pas disponible. On sait mettre en pause les activités, par exemple. tu vois, ce qui a beaucoup d'avantages. Et un autre point super important, c'est que le fait d'arriver à fonctionner avec des énergies intermittentes, c'est qu'on a compris qu'en fait, on pouvait stocker les produits de conservation. Donc autant les graines torréfiées que le textile, les chaises, les tables, les matériaux de construction. Une fois qu'on les a produits, on peut les stocker. Et de cette manière-là, on a réussi en faisant ça à casser la logique du flux tendu. Tu vois, donc toutes les entreprises ont constitué des stocks. Et donc on a réussi assez rapidement à alléger énormément les problèmes de pénurie qu'on a pu avoir dans les périodes Covid, des conflits armés qu'il y a pu avoir là en 2023, etc. Les relations géopolitiques avec la Chine, etc. Et du coup, le fait d'avoir supprimé le flux tendu, on a aussi beaucoup apaisé les guerres commerciales. Et on a limité les pénuries. Et puis, on a créé des produits qui avaient plus de valeur d'usage que de valeur commerciale, parce que ça devenait une grosse valeur d'être capable de, par exemple, de fabriquer une chaise et de la vendre tout de suite ou dans 3 ans. Donc, parce que du coup, ça apporte beaucoup de sécurité à tout le monde. Donc, on a modifié la conception des produits.
C'est fou quand même, Arnaud, parce que l'intermittence, qui il y a 10 ans en arrière était souvent pointée du doigt comme une des tares des énergies renouvelables, en fait, c'était une des portes d'entrée libératrices, parce que ça nous a permis de reposer la question de notre contrôle à tout prix sur tout et de redonner aussi de la valeur aux choses. À partir du moment où, en fait, les énergies renouvelables, elles ne sont pas tout le temps là, ça nous permet de nous rendre compte du caractère précieux et rare de l'énergie et de tout ce que ça nous aide à produire.
Ouais, et puis il y a quelque chose qui paraît évident en 2030, mais qui paraissait qu'on n'arrivait pas à concevoir dans les années 2020, c'est que on entendait à ce moment-là beaucoup l'argument de dire que les énergies intermittentes ne peuvent pas alimenter l'économie. Et ce qu'on ne se rendait pas compte, c'est que cette phrase est vraie, mais elle n'était pas finie, cette phrase. On ne la disait pas jusqu'au bout. Ce qu'on ne disait pas, c'était que les énergies intermittentes ne peuvent pas alimenter une économie pensée pour fonctionner sur des énergies continues. Mais si les formes d'organisation des entreprises sont pensées pour fonctionner sur des énergies intermittentes, évidemment, les énergies intermittentes peuvent faire fonctionner une économie. Et voilà, donc ça fait partie, c'est les grosses transformations qu'on a, dont on s'est rendu compte, et ça a modifié toute la doctrine économique.
T'imagines, les valeurs du coup d'une énergie qui fonctionne sur des énergies intermittentes ont complètement changé, puisque il y a presque plus de place à la compétition. Là, on doit être dans l'adaptation, la prévision, la planification, la coopération pour réussir à faire en sorte que toutes les entreprises puissent fonctionner à des moments différents en fonction des, comme tu le disais, des besoins en termes énergétiques, en termes de production. Donc, on a changé complètement les valeurs au centre de notre économie et en fait au centre de notre société grâce à cette relation nouvelle à l'énergie.
La doctrine énergétique a complètement changé. Tu vois, ça n'a plus aucun sens de fabriquer de l'énergie électrique pour fabriquer de la chaleur. Tu vois, on s'est rendu compte que les entreprises artisanales ou industrielles en Europe consomment à 50% de la chaleur. Dans les pays en développement, c'est 70 à 80%, parce qu'on a délocalisé le textile, etc., et beaucoup d'autres choses. On s'est rendu compte que c'était essentiellement de la chaleur dont on avait besoin. Et donc, on s'est rendu compte que les énergies intermittentes avaient un gros avantage pour pouvoir alimenter en chaleur décentralisée des activités qui sont décentralisées, notamment par le solaire à concentration. Et de ce fait, on a complètement décomplexifié les réseaux d'acheminement électrique. On s'est rendu compte qu'il n'y avait pas besoin des smart grids ou de ce genre de multiplier les objets connectés, et qui en plus, de toute façon, allait nous amener encore un peu plus vite dans le mur à cause de la limite des ressources sur les matériaux rares, etc.
Ouais, justement, toi, en 2023, tu avais ce caractère d'ingénieur humaniste. En réalité, tu participais aussi à redonner à l'ingénieur ses lettres de noblesse créative, puisque tu montrais qu'on pouvait innover non pas en faisant feu de tout bois, comme tu le disais, à coup de smart grid, d'intelligence artificielle ou je sais pas quelle autre connerie, mais qu'on pouvait innover de manière frugale, de manière sobre, et donc l'avant-garde des low-tech que tu portais s'est largement déployée.
Oui, alors, voilà, j'ai pas l'ambition de dire que je suis humaniste ou je sais pas. Voilà, mais c'est sûrement les valeurs qu'il faut mettre en avant. Mais en tout cas, oui, y a besoin. Tu vois, évidemment, ce qui est sage de faire, c'est de sécuriser les besoins de base. Donc, tu vois, il faut garder des boulangers locaux, des maraîchers, etc., etc. Et il faut que ces métiers-là soient soutenables, agréables, qu'on puisse y travailler toute sa vie, etc. Donc, il faut mettre de l'intelligence là-dedans, tu vois. Il faut mettre de la réflexion, il faut être beaucoup à rechercher les meilleurs modes d'organisation pour que ce soit confortable de les faire, en fait. Et on l'a beaucoup fait dans l'industrie, tu vois, ce qui a permis d'énormément augmenter la productivité pour nourrir le capitalisme, en fait. Mais si on fait ces efforts-là dans l'artisanat, en faisant des bataillons de... Pas des bataillons, parce qu'il y a une connotation un peu guerrière, tu vois, mais des promos d'ingénieurs artisans, on va mettre, ou d'ingénieurs paysans, ou de philosophes paysans, ou d'historiens agriculteurs, voilà. On va remettre de la réflexion pour transformer les métiers et en faire des choses qui soient agréables, fluides et adaptées au nouveau contexte. Et je vais juste prendre un seul exemple, tu vois, c'est quand j'ai commencé à faire du pain, donc j'avais pas encore le four solaire à ce moment-là, j'ai commencé 2 ans dans le four solaire pour travailler sur les savoir-faire. Tu vois, donc tout ça, c'est du travail, hein, ça se fait pas du jour au lendemain. Les journées de pain, basées sur ce qu'on m'avait enseigné, puis les croyances que entendues à droite, à gauche, les manières dont il fallait faire, dont il ne fallait pas faire, etc. Je faisais 60 kilos de pain en étant claqué à la fin, quoi. Et bah, 2 ans plus tard, en travaillant sur les températures d'enfournement, sur en faisant des essais sur les différentes méthodes de cuisson, etc., etc. 2 ans plus tard, je faisais 120 kilos de pain en étant moins fatigué. Donc ça ne veut pas dire que c'est pas de pousser à la productivité au maximum, mais c'est juste que le métier devient plus agréable. Et je me suis libéré du temps. Tu vois, tu vis beaucoup mieux en vendant 120 kilos de pain qu'en vendant 60. Et t'es moins fatigué. Donc, tu vois, et du coup, tu te libères du temps pour être créatif. Et donc, tu vois, si je me contentais de fabriquer mon pain, moi, je pourrais travailler 2 jours par semaine. 2 grosses journées. Hein. 2 grosses journées, mais... je pourrais travailler 2 jours par semaine. Je travaille à temps plein, etc., etc. Parce que voilà, il y a beaucoup de choses à développer, il y a beaucoup de connexions à faire. Si mon objectif était simplement de faire du pain dans le fond de mon jardin,
et
ben.
Et d'ailleurs, ma question, c'est toi, en 2030 glorieuse, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Tu es concentré sur ton activité de déploiement de cette technique des fours solaires partout en France. Est-ce que tu as développé d'autres low-tech? À quoi ressemble ton quotidien?
Oui, alors on a développé d'autres. Le déploiement des fours solaires, donc Lightfire que moi j'utilise, c'est géré par Solarfire. Et donc Solarfire, on n'a pas parlé de cet aspect-là de l'histoire, mais Solarfire, c'est l'entreprise qui conçoit les fours solaires qu'on utilise à Neoloco. Et donc forcément, ça s'est beaucoup déployé. En France et à l'étranger.
Oui, on a tous un artisan qui utilise un four Solarfire à côté de chez nous aujourd'hui en 2030 glorieuse.
Voilà, c'est hyper commun. On en voit dans les festivals, il y en a partout. Et après, oui, il y a besoin d'autres types d'outils. Et donc, on a développé ce type d'outils, plein d'outils utiles pour l'artisanat dans d'autres domaines. Et donc, j'invite à regarder la Belle Tech qui se concentre à développer ces outils-là. Et après, moi, je m'implique pour pour démocratiser voilà les modes d'organisation pour fonctionner aux énergies intermittentes. Donc j'essaye d'accompagner au maximum ça sur voilà pas seulement la boulangerie et la torréfaction, mais sur d'autres activités. Parce que la boulangerie, la torréfaction, ça paraît facile maintenant qu'on peut voir, dès qu'on a pu voir une activité fonctionner. Mais à partir du moment où les gens se sont rendus compte que voilà, si on ne leur mettait pas sous les yeux la boulangerie solaire ou la torréfaction solaire, c'est difficile à imaginer. Et donc, il faut juste se rendre compte que bah, cette difficulté, en fait, elle est la même dans tous les domaines. Et c'est pas parce que ça paraît difficile à imaginer qu'on ne peut pas faire les mêmes transformations que ce qu'on a fait sur la boulangerie et la torréfaction. Et puis, voilà, je m'intéresse à d'autres sujets. Voilà. Mais l'objectif ultime, c'est de pouvoir faire du pain au fournil tranquillement et de passer le reste du temps à échanger, créer des connexions, continuer à chercher un petit peu avec plein de gens qui se sont impliqués. Mmh. Et voilà, de contribuer à transmettre quelque chose de vraiment utile en fait aux générations qui arrivent. Ouais, les ressources non renouvelables qu'on a encore disponibles aujourd'hui, c'est soit on les utilise pour développer des solutions qui sont réellement durables pour l'avenir, donc c'est-à-dire qu'ils n'auront plus besoin de ces énergies non renouvelables, soit on les utilise pas. C'est ça la logique qu'il faut garder.
Et d'ailleurs, aujourd'hui, ces énergies renouvelables, on les utilise grâce au processus du four solaire que tu as largement aidé à répandre. Et ça nous a redonné le goût du local et le goût de la diversité, de la territorialité. Aujourd'hui, on a, en fonction des endroits où on va, des pains différents, des produits torréfiés différents, parce que les produits sur place ne sont pas les mêmes, parce que les artisans ont développé des techniques et des savoir-faire qui sont tous différents. Et donc, on reprend le goût du local encore plus que celui qu'on a il y a une dizaine d'années en arrière, et ça c'est un sentiment de fierté, de singularité, d'originalité qui nous fait aussi nous sentir encore plus vivants. C'est ça aussi le pouvoir de ces processus, hein.
Et c'est ça qui est génial, c'est que le fait d'avoir mis des torréfacteurs tous les 100 km, voilà, ça permet de se rendre compte que la lentille verte qui a poussé sur les coteaux en vallée de Seine exposée au soleil a des saveurs complètement différentes de la lentille beluga qui pousse dans les forêts de Brocéliande en Bretagne. Et en fait, ça permet des échanges, ça permet de recréer des cultures locales. Et c'est extrêmement riche en diversité et extrêmement riche en créativité. Et les échanges en sont que beaucoup plus intéressants. Et puis ça, on innove, il y a une espèce d'innovation sociale incroyable dans laquelle les gens inventent des manières d'être qui sont extrêmement soutenables et joyeuses et qui étaient inenvisageables.
Ouais, ça aussi, hein, la créativité, la joie, ça fait partie des énergies largement renouvelables dont on fait un bon usage en 2030 glorieuse. Là, avec tout ce qu'on a dit, Arnaud, je suis sûr que les gens qui nous ont écoutés se sont dit, bah, attends, en fait, là, moi, j'ai envie d'une économie comme ça, j'ai envie d'un artisanat comme ça. Si on commence à revenir petit à petit en 2023, qu'est-ce que tu leur suggérerais à ces gens-là pour continuer à agir dans le sens de ces 2030 glorieuses à une économie intermittente, à un artisanat retrouvé et créatif? Qu'est-ce qu'ils devraient continuer à faire là tout de suite, ou par quoi ils devraient commencer si jamais ils ne se sont pas encore mis en chemin?
Ouais, tu couperas si ça t'ennuie au montage, mais attention. Oui, c'est un point que je développe pas mal dans le livre.
Vas-y.
Qui va sortir là. Tu vois, ce dont tu parles, c'est la bascule. Comment est-ce qu'on bascule d'une situation aujourd'hui où on a l'impression d'être un peu dans l'immobilisme vers quelque chose qui puisse devenir souhaitable. Et moi, je raconte que la bascule, c'est un entraînement. C'est extrêmement difficile au début. Parce que parce qu'on est porté par ses habitudes, par ses croyances, par tout ça. Mais en fait, c'est un entraînement et ça devient entre guillemets un exercice de basculer. Tu vois, je vais expliquer un peu. tu vois, quand tu questionnes un savoir-faire, par exemple, ou quand tu questionnes une manière de faire. Donc ça peut être tout et n'importe quoi, hein, dans la vie quotidienne, au travail, etc. Et que ce qu'on te répond, ou ce que toi-même tu te réponds, pour dire que c'est pas possible, ou alors si la question c'est pourquoi est-ce qu'on fait comme ça, la seule réponse que tu trouves à dire c'est parce que ça a toujours été comme ça, ou alors les seules justifications que tu trouves c'est celles de tes croyances ou de tes habitudes, et ben là tu peux te dire qu'il y a un point de bascule. Tu vois, à chaque fois que moi ça a commencé pendant le voyage des vagabonds l'énergie, quand c'est une anecdote que je raconte souvent, mais je vais pas la raconter en détail, mais voilà, on comprenait pas comment la Turquie avait fait, le sud de la Turquie avait fait pour avoir quasiment du 100% eau chaude solaire, alors qu'au Liban à côté c'est la situation inverse, alors qu'il y aurait bien plus besoin qu'en Turquie. Tu vois, quand on a posé la question aux gens, il y avait des bugs qui se produisaient parce que les gens ne comprenaient pas pourquoi on se posait la question. Tu vois, et quand j'ai commencé à travailler sur les pratiques en boulangerie, c'était systématique. Tu vois, les habitudes et les croyances font partie de la culture, si tu veux, et c'est très compliqué de les questionner. Mais le fait que ce soit compliqué de les questionner simplement parce que ça fait partie des croyances de la culture, ça doit nous mettre une alarme. Et il faut absolument explorer ces pistes-là. Donc elles ne sont pas toujours bonnes, voilà, tout n'est pas à garder, mais par contre c'est là-dedans qu'il y a les marges de manœuvre. Et en fait, ce que moi j'ai compris, alors tout peut être débattu, mais ce que moi j'ai compris, c'est que si tu veux, la culture, elle est là pour nous économiser des forces, tu vois. Si on n'avait pas la culture, on se poserait la question tous les jours, combien de repas il faut faire par jour, qui je dois appeler quand je suis malade, comment j'élève mes enfants, c'est quoi mes relations dans la famille, comment je dois être avec les amis, avec les étrangers, etc. Tu vois, comment est-ce que je me comporte, comment est-ce que j'évolue au quotidien. S'il n'y avait pas la culture, on se poserait à chaque instant de la journée des questions existentielles, tu vois. Et la culture, elle permet de transmettre des savoir-faire, des moyens d'agir, etc., sans devoir questionner la raison pour laquelle on a choisi de faire, de créer tel savoir-faire, ou on a choisi de vivre de cette manière, etc. Donc ça permet de ne pas questionner les raisons. Et ça pose aucun problème quand le contexte ne change pas. Tu vois, si le contexte reste le même pendant 200 ans, la culture n'a pas besoin d'évoluer beaucoup. Et à partir du moment où le contexte change, eh ben, tu vois, peut-être des savoir-faire ou des pratiques ne sont plus adaptées. Mais si on n'est pas, on se met pas en capacité de les re-questionner, au moins pour vérifier que c'est encore OK, tu vois, de fonctionner comme ça, eh ben, c'est toute la société qui rentre en tension, tu vois. Et c'est ça qu'on voit aujourd'hui. C'est que le contexte a changé et on se rend pas compte que c'est la culture qu'il faut questionner et pas, quelconque technologie ou je sais pas quoi. Tu vois, il n'y a pas de bonnes énergies pour alimenter la société du gâchis. Quand on dit ça, c'est ça qu'on veut dire. Si tu veux, c'est là-dessus qu'il faut travailler.
Merci Arnaud.
Merci d'avoir pris le temps de voyager en 2030 glorieuse avec nous. Vos commentaires et suggestions sont les bienvenus et abonnez-vous à ce podcast pour être sûr de ne pas rater les prochains épisodes. Moi, je vous dis à très vite pour découvrir ensemble d'autres utopies réalistes et je vous donne rendez-vous sur ça commence par moi.org pour construire ensemble un monde meilleur dès aujourd'hui. Salut !